Aujourd'hui, on va voir la suite de ce qu'on a vu hier. Alors, vous vous rappelez, juste un petit résumé, l'importance de savoir l'appel de notre vie, l'importance de savoir pourquoi on vit, pour qui on vit, et on a vu que c'est important d'être conscient qu'on est appelé toutes et tous à vivre pour la gloire de Dieu. Donc ça, c'était l'appel premier. Et on a vu aussi ce résumé premier de vivre pour la gloire de Dieu. La loi est résumée en une seule parole. Quelle est-elle ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de phrase un peu simple. Parce que c'est vrai que la Bible, hein, c'est quand même costaud, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses et tout. Et avoir ce genre de phrase où on dit, bon, je te résume la loi en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça nous aide à savoir où on veut aller. Et aujourd'hui, je vous propose de voir deux choses importantes. La première, c'est, on dit glorifier Dieu, vivre pour la gloire de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et la deuxième, comment pouvoir vivre pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est important pour pouvoir mettre ça en pratique? Donc on a compris que c'est important, on a compris que c'est la direction, on a compris que c'est la vision, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et la deuxième, comment on va pouvoir le vivre ensemble et individuellement. Et j'imaginais cette scène pour montrer combien c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire vivre pour la gloire de Dieu. J'imaginais cette scène en fait de deux personnes qui sont recrutées pour un magasin de vente. Et puis elles sont recrutées dans le même magasin, mais par deux superviseurs différents. Il y a un superviseur qui lui dit, au premier, qui dit, écoute, chez nous ici, ce qui est le plus important, c'est que tu vendes le maximum d'articles. Vraiment, tu vois, tu fais tout ton possible pour vendre le maximum d'articles. Nous, c'est le chiffre d'affaires qui compte, c'est le nombre de ventes à la fin de la semaine, c'est ça qu'on regarde le plus. Et l'autre est recruté et dans le même magasin, la même enseigne, mais un autre superviseur. Et l'autre superviseur, il dit, écoute, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'accueil. J'ai vraiment envie que tu mettes les clients bien, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent appréciés, qu'ils se sentent valorisés. Et je vous laisse imaginer les attitudes différentes entre les deux personnes, les deux vendeurs. Oui, il y en a un qui est toujours là. Alors, bonjour madame, oui. Alors, le dernier article qu'on vient de sortir, ça vient vraiment avec votre teint qui est tout rose. Et l'autre, bonjour madame, vous avez passé une bonne journée, alors on est content que vous soyez là, allez-y, prenez votre temps. Et il y en a un évidemment à fond sur la vente et l'autre à fond sur l'accueil. Et dans la vie chrétienne, je vois aussi la même chose. Qu'est-ce que vous dit votre superviseur, celui qui vous a recruté? Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour la gloire de Dieu? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre. Parce que vous allez mettre votre accent dans votre vie chrétienne sur ce que vous allez comprendre qui est important, selon Dieu. Et je crois que une des très belles histoires que j'aime, qui me montre un peu ce que veut dire vivre pour la gloire de Dieu, après on va le décliner, c'est dans Matthieu, chapitre 21. Et on va lire une histoire, versets 28 à 31. Qu'est-ce que veut dire vivre pour la gloire de Dieu? Juste avant de lire, est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques réactions quand on vous dit vivre pour la gloire de Dieu? Vous pensez à quoi quasiment automatiquement? À part le bâillement de Samuel. Moi aussi j'ai envie de bâiller.
Je viens verser dans Colossiens, c'est quoi que nous fassions, vous faites de bon cœur comme si c'était pour le Seigneur et pas pour tous les autres.
Alors de bon cœur pour le Seigneur. De bon cœur pour le Seigneur. Très bien, merci beaucoup. Un beau verset. De bon cœur, la disposition de cœur et la vision de dire je fais ça pour Dieu. Vas-y.
Je pense à donner pour la gloire de Dieu.
donner. Dès qu'on te dit vie pour la gloire de Dieu, toi, tu es dans la dynamique de, du don, quoi. D'accord, du don de soi, du don de l'argent, du don de temps.
Je pense plus à l'argent.
Ouais.
Pas mal.
Ouais.
Un peu, oui, le service aussi.
D'accord.
Chercher qu'est-ce qui plairait à Dieu.
Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu, très intéressant, merci. Quoi d'autre ?
Prendre plaisir à obéir.
Prendre plaisir à obéir. Prendre plaisir à obéir. Bon, on va terminer avec ça, puisque c'est l'idée sur laquelle je voulais. On va lire ce texte, très intéressant. On voit que tu as plus dormi que nous, toi. Hein. C'est ça. N'oublie pas de dire ça à la fin du partage. Je te donnerai 10 euros après. Non, on va lire ensemble. Donc, tout ce que vous avez dit était juste. Hein. Mais je crois effectivement que ça peut être résumé là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut bien nous lire Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32 ?
Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : Je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit : Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui.
Merci. Alors c'est une des histoires. Donc moi, quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille chrétienne et on avait plein de petites BD où il y avait plein d'histoires chrétiennes et notamment les paraboles de Jésus. Et je trouvais vraiment cette histoire simpliste, vraiment très très simple, quoi, dans le terme un peu négatif du terme. Il y a deux fils, il y en a un qui va dans la vigne, un qui dit non. Et au final, il y va, et l'autre qui dit oui, et il y va pas. Bon, je trouvais bon. C'est pas très creusé comme histoire. Mais en fait, c'est tellement vrai, tellement profond. Et c'est simple, mais c'est ça la force de l'évangile. C'est que c'est absolument simple pour que tout le monde puisse comprendre. Du petit au plus grand. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Bah, c'est obéir. C'est aussi simple, c'est Jésus a donné quelque chose, une instruction, et je la fais. Et l'histoire est très intéressante parce que Jésus il parle aux pharisiens, il parle à des hommes de loi, il parle à des hommes qui connaissent la Bible, donc qui connaissent la volonté de Dieu. Et il leur dit, plus important, c'est pas de connaître la volonté de Dieu. C'est même pas de savoir la dire. Encore moins de savoir dire, oui, je vais le faire. Plus important, c'est qu'est-ce qui se passe après. Tu as peut-être même mal commencé. Tu as même mal commencé en disant, ah non, ça me plaît pas ce que la parole de Dieu dit, ou c'est pas mon truc, là, ce que le Seigneur demande. Et il dit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est à la fin. Est-ce que tu le fais au final ou pas? Il y a deux fils. Et c'est vrai que parfois on peut être pris un petit peu dans une vision très théorique, théologique de la
parole de Dieu.
Et Jésus il revient très concrètement. Il dit mais c'est très simple. En fait c'est faire ma volonté. C'est ça qui me plaît. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, servir, donner, c'est des choses que Dieu nous demande. Donc l'état d'esprit premier pour glorifier Dieu, c'est Seigneur, je veux faire ta volonté. Hier, on a pu résumer la loi, mais finalement, la loi, c'est quoi? C'est ce que Dieu demande. C'est la volonté de Dieu pour l'homme. Donc finalement, vivre pour la gloire de Dieu, c'est chercher à faire sa volonté. C'est chercher à lui obéir. Et de là découle tout le reste. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est faire ce qui lui plaît, comme on l'a dit. Faire cela de bon cœur. C'est cet état d'esprit premier de chercher sa volonté. Et la volonté de Dieu est révélée où, par excellence ? Dans la parole. Et donc, pour connaître la volonté de Dieu et pour ne pas se tromper de superviseur, hein, vous vous rappelez, là, tout à l'heure, il y avait deux superviseurs qui donnaient des conseils et deux visions complètement différentes. Mais on veut prendre la parole de Dieu comme étant notre premier superviseur, celui qui nous donne la direction de ce que Dieu veut vraiment, de ce qu'il glorifie, de lorsqu'on a été racheté par Christ, quelle est vraiment notre direction de vie. C'est la parole de Dieu qui va nous le donner. Et là, on a beaucoup, beaucoup de textes. C'est pour ça que les dimanches après-midi, vous prenez le temps d'aller à l'église. C'est pour ça que vous faites les études en quartier, parce qu'on veut connaître ce que Dieu nous demande pour mieux vivre pour lui. Et évidemment, on va pas faire un tour de tout ce qui se propose, mais je vais juste te donner quelques axes qui peuvent nous aider. Et encore une fois, j'aime beaucoup les choses qui me permettent de résumer où je dois agir. Je suis pas quelqu'un qui aime traiter plein d'informations et puis avancer avec plein d'informations. J'aime bien traiter plein d'informations pour ensuite arriver avec 2-3 axes principaux, et je vais vous partager mes 2-3 axes principaux à la parole de Dieu. Donc évidemment, on va commencer avec on en a parlé hier, mais ça fait partie de ce qui peut aider à résumer la vie chrétienne. Lorsque vous posez la question: Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ta volonté? Seigneur, est-ce que je suis en train de vivre pour toi? Seigneur, est-ce que je suis en train de bien écouter ta parole et aller de l'avant? Je vous propose de réfléchir à travers la question que quelqu'un lui a posée à Jésus. C'était en Matthieu chapitre 22. Et on va faire le verset 34 à 40. C'est une répétition un petit peu de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu hier et de ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais comme Paul et Pierre diront, on ne se lasse pas de répéter les mêmes choses parce que c'est bon pour nous, c'est salutaire. Donc, suis-je en train de faire la volonté de Dieu? Deux axes de scan. Le premier chapitre 34, on voit les deux. Le chapitre 22, versets 34 à 40. Donc, Matthieu 22, versets 34 à 40, je vais vous le dire. Les pharisiens, encore eux, apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, posa cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Alors c'est très intéressant. Pourquoi cette question est pertinente? Pourquoi cette question est difficile? Nous aujourd'hui, on connaît la réponse. Mais en ce temps-là, la loi, mais c'est la loi, c'est la loi, c'est de la masse, quoi. C'est une liste de règles de partout. Aujourd'hui, on aime diviser les lois en trois choses. Il y a un ensemble de lois morales sur la façon dont tu dois te comporter avec tes parents, avec ton voisin, avec ta voisine, tout. Ensuite, il y a toutes les lois cultuelles. Donc c'est la façon dont tu mets tes sacrifices, quand tu t'approches de Dieu, ce que tu dois amener, un bouc, deux boucs, trois boucs, un oiseau, etc. Donc tout ça, c'est la loi. Et donc il y a tout ce qui est culturel, tout ce qui est moral et tout ce qui est civil. Donc le rapport en tant que communauté d'Israël, communauté du peuple de Dieu, là pareil, c'était des règles. Qu'est-ce qu'on fait le septième jour? Qu'est-ce qu'on fait tous les 40 ans, 50 ans? Qu'est-ce qu'on fait à telle fête, etc. Donc il y a un ensemble de lois que les Israélites essayaient d'obéir, hein, vous le savez, ça c'est vraiment leur désir. Il y a un qui dit, bon alors Jésus, on va voir si t'es vraiment le meilleur. Parmi les 3227 lois qu'il y a, laquelle tu dirais qui est la plus importante? Et Jésus étant finalement l'auteur de la loi, n'est-ce pas? Puisque Jésus, ayant existé d'avance, il résume, il dit, non seulement il dit le plus important, mais en plus il dit, ça résume le reste. Je vais continuer à lire. Maître, quel est le plus important commandement de la loi? Jésus lui répondit, « Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Là est le cœur même de toute la loi que Dieu a donnée, toutes les instructions que Dieu a données, que tout le cœur de la parole de Dieu, c'est de créer, d'encourager, d'édifier cette relation que tu as avec Dieu. C'est pas que tu es à l'église. C'est pas que tu pries 4 fois par jour. C'est avant tout que ton cœur, que ta pensée, que ton âme soit tournée vers Dieu. C'est le premier appel. Mais Jésus ne s'arrête pas là, comme vous le savez, hein, vous connaissez déjà ce verset. Il complète, il associe, il ne différencie pas les deux. Il dira la suite au verset 39. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'aime beaucoup la notion de comparaison. Tu aimeras ton prochain. Je pense que voilà, tout le monde entend l'amour, c'est quelque chose que tout le monde entend parler dans le monde. Hein. Mais Jésus, la parole de Dieu en tout cas, complète en disant comme toi-même, comme toi-même, au même niveau que ce que tu te fais comme bien. Un verset en Philippiens chapitre 2, ne cherchez pas votre propre intérêt, mais celui des autres. C'est vraiment à ce niveau-là. Jésus met un niveau d'amour. Et il dira, en conclusion, de ces deux commandements dépendent ou découlent toute la loi et les prophètes. Et je reviens à mon histoire de, pourquoi est-ce que c'est important de se dire ça? Je reviens à mon histoire de deux vendeurs. Il y a deux vendeurs, il y en a un qui a pour objectif de vendre, l'autre qui a pour objectif d'accueillir. Ça ne veut pas dire que celui qui a pour objectif de vendre, jamais il n'accueillera. Parfois il dira bonjour, il sera sympa avec l'autre. Ou l'autre, ça ne veut pas dire qu'il ne vendra jamais. Mais ça ne sera pas leur premier objectif. Ce ne sera pas notre première poursuite. Pour celui dont l'objectif est de vendre, son objectif n'est pas d'accueillir, c'est de vendre. L'accueil ne sera qu'un moyen pour vendre. Et l'autre, pour celui dont l'accueil est important, la vente va arriver parfois, puisque bon, bah finalement, c'est un peu ce qui sera appelé. Mais son premier objectif, c'est l'accueil. Quel est ton premier objectif? Et là, je vous remets dans le cadre dans lequel vous êtes. Vos études. Votre premier objectif, est-ce vos études? Ou est-ce l'amour? Aller à l'église? Ou est-ce l'amour? Votre premier objectif de vie, c'est l'amour. C'est faire la volonté de Dieu. Donc, c'est aimer. Et les études ne doivent devenir qu'un moyen pour aimer. Ah, c'est pas comme ça qu'on nous l'avait dit. Hein. Ah bon? Je vais prendre des études d'ingénieur pour mieux aimer, ah bon? Et finalement, n'est-ce pas ça? Ma vie entière est dirigée vers la gloire de Dieu, donc mon travail devient une occasion, mais pas une fin, comme on l'a vu hier. Une occasion pour honorer Dieu, glorifier Dieu, aimer les autres. Mes études, si vraiment je veux vivre pour Dieu, ne sont plus qu'un moyen. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut choisir n'importe quelle étude. Le Seigneur nous a donné des passions, nous a donné des compétences, nous a donné des opportunités, de même pour le travail. Mais ça ne devient pas la fin en soi. La fin en soi devient et de faire la volonté de Dieu et mon travail, mes études, mon argent, mon temps deviennent des moyens, des opportunités pour honorer Dieu et donc pour aimer mon frère et pour aimer mon Dieu. Et c'est là que l'Église a un message absolument différent de tout ce que vous entendrez au quotidien dans votre travail, mais jamais on vous dira ça. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de se voir régulièrement entre frères et sœurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre un peu ça de façon très concrète. Je vais diviser la salle en trois. Et on va essayer de voir très concrètement ce que ça veut dire dans le travail, dans la famille et dans l'Église. Et vivre pour la gloire de Dieu. Donc vous vous rappelez, vivre pour la gloire de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, et faire la volonté de Dieu se résume en deux actions. Mais là, on va le décliner très concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc vous allez essayer de trouver des situations concrètes, des exemples très concrets pour que on puisse visualiser ce que ça veut dire. Donc je vous propose de diviser. Donc on va faire le premier rang. On va diviser jusqu'à Elisa. Et alors vous êtes 3, 5, 6, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc on va faire des groupes de 6 ici, 6 et 7. Donc 4. Donc Clément, toi tu passes avec eux là-bas. Et Laura et Sophia, vous vous divisez. Donc Laura, tu seras avec Elisa, pardon. Et Justine, donc voilà. Donc vous êtes ce coin-là. Et vous le mettez au carré.
Voilà, vous êtes ensemble là, effectivement. Vous êtes ensemble, et vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble.
Alors, le groupe de Yada, qu'est-ce que ça veut dire vivre pour la gloire de Dieu dans le travail? Ah, vous pouvez venir, les gars. Vous mettre avec eux. Dans le travail. Alors, le groupe de Clément et Tatiana et les autres, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et le reste du monde, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement vivre pour la gloire de Dieu dans la famille, dans votre famille? Donc quand je mets famille, je mets frères, sœurs, parents, conjoints, beaux-parents. Non, famille de sang. Famille de sang. Qu'est-ce que ça veut dire dans la famille? Quelles sont les attitudes qu'on va avoir? Donc très concrètement, illustrons ça. Et pour le groupe de Michael Lai, c'est pas comme ça que vous l'appelez?
Non, parce qu'il y a un mot qui s'appelle.
On m'a toujours dit qu'il s'appelait comme ça. Oh là là, mais tu vois, on t'a dit, j'avais un mauvais superviseur, tu vois, sur ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement vivre pour la gloire de Dieu dans l'Église? Et donc, encore une fois, deux perspectives, aimer Dieu et aimer son prochain. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà. Et si vous avez des versets en appui qui vous inspirent, je vous en donnerai après, vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes. Et par contre, j'aurai besoin d'un rapporteur par groupe, quelqu'un qui prend des notes. Alors, c'est pas forcément lui qui va parler, mais au moins quelqu'un qui note. Voilà. Merci. Donc je vous laisse quelques minutes pour faire ça, je vous préviendrai. Donc ici dans le travail, dans la famille et dans l'église, très concrètement. Je vous propose de revenir alors en grand groupe. Remettre nos tables, nos chaises, pardon. Je propose de clôturer vos discussions et puis peut-être la dernière phrase ou le dernier mot. Rends la copie, t'auras zéro. Ok. Très bien. Alors, vive pour la gloire de Dieu. Alors j'aurais pu diviser, par exemple, j'aurais pu mettre les enfants d'un côté et le rapport au conjoint de l'autre, ou au sexe opposé, même on aurait pu dire, qu'est-ce que ça veut dire vivre pour la gloire de Dieu vis-à-vis du sexe opposé? Ça aurait été une question intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour la gloire de Dieu dans son temps libre? Voilà, tout ça aurait pu encore être des réflexions. Finalement, c'est à chaque instant de notre vie, c'est vivre pour la gloire de Dieu, mais j'ai pris les environnements où en général on passe beaucoup de temps. Donc, on va commencer avec le dernier groupe. Vive pour la gloire de Dieu dans l'Église. Les premiers, les derniers seront les premiers, et maintenant ils sont les premiers. Alors, déjà, est-ce que vous avez quelqu'un qui n'a pas peur de parler en public? Tu veux parler? Ok, de toute façon, vous pouvez compléter après, hein, d'accord? S'il y a une idée que... Tu vois, soutien, c'est ça? Priez pour elle maintenant. Priez pour elle maintenant. Ok, super. Allez.
Vivre la gloire de Dieu dans l'Église. Donc l'Église, c'est un endroit où on peut exercer l'amour du prochain.
Mm-hmm.
Donc il y a deux axes, glorifier Dieu, c'est aimer Dieu, et puis aimer son prochain. Donc l'Église est l'endroit où on peut exercer l'amour du prochain. Donc Dieu nous a donné des personnes et des occasions pour aimer. Et donc, Dieu a créé l'Église à ses noms. Donc, par exemple, prendre des nouvelles des uns des autres, créer des liens pour les connaître.
Créer des liens pour les connaître, super.
Servir, prier pour eux.
Prier les uns pour les autres. Se saluer mutuellement, n'est-ce pas une marque d'amour, hein? C'est vrai.
Aimer Dieu dans le culte d'un
groupe. Oui.
Avoir la même foi, même vision, ouais. Même motivation. Il y a une cette unité.
Oui.
Et puis grandir dans la relation avec Dieu. La relation personnelle.
D'avoir ce souci d'être connecté à Dieu, de grandir.
Connecté à Dieu.
Le service, esprit de service,
les toilettes. Donc voilà, et puis on a parlé aussi du fruit de l'esprit, qui est important pour glorifier Dieu, sans laquelle sans le fruit de l'esprit, c'est tout simple. Et non pas seulement de connaître ce fruit de l'esprit, mais de le vivre,
de l'exprimer. Alors on peut juste rappeler le fruit de l'esprit, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on entend fruit de l'esprit, mais se rappeler, se dire je vais vivre ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? Donc alors, le fruit de l'esprit,
l'amour.
Donc, attitude de joie envers les frères et sœurs. Attitude de paix. Ouais.
Patience,
hein? Ah,
exemple de patience. Exemple de patience. Exemple de patience. Petit exemple de patience. Dans l'église, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple de patience? Alors, les autres groupes, je suis dans l'église, comment je pourrais exprimer la patience? En retard, par exemple, bravo.
La patience, c'est venir te chercher.
Haute patience dans l'église. Exemple de patience dans l'église.
Pour une personne qui a pas le même point de vue.
Oui, donc des points de vue différents sur des sujets théologiques, mais il comprend rien celui-là.
La prière, elle est toujours.
La prière, très bien. Pardon? Vas-y, raconte un peu. Oui, voilà, mais c'est vrai, dans l'enseignement, voilà, être patient. Super. Autre fruit de l'esprit, la patience, la bonté, bonté. Exemple de bonté dans l'église. Pardon? T'as dit quoi? T'as dit une bêtise? Exemple de bonté. Pardon? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme dans l'église? Pardon? Apporter un verre d'eau à celui qui a soif.
Apporter un verre d'eau au pasteur quand il parle.
Quand il parle. D'ailleurs, vous manquez de bonté ici, hein? C'est gentil. Petit gâteau d'anniversaire comme hier, super. Bonté, être bon envers nos frères et sœurs. Bon, je pense que ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'était la bonté aussi. Prendre des nouvelles les uns des autres, passer un petit coup de fil. Voilà, donc ça, c'est des exemples de bonté aussi.
Se soucier de l'autre.
Bienveillance. Bienveillance. Oui, tout à fait. Oui. Autre fruit de l'esprit. La foi. Comment manifester la foi? Confiance, foi. On l'encourage dans ce domaine-là, oui. Maîtrise de soi. Ah, comment se maîtriser dans l'Église? Voilà. Très bien. Donc, les paroles, hein, n'est-ce pas, savoir se maîtriser la façon dont on parle aux frères et sœurs. Ok, bref. Merci. Jésus comme modèle. Et je pense que ça, c'est vrai pour tout le monde. Jésus comme modèle. Et la douceur dans les fruits de l'esprit. Un petit exemple de douceur, allez.
David Chenu.
David Chenu. Ok. Alors, allez, pour les autres groupes, trouvez-moi des choses à ne pas faire qui ne glorifient pas Dieu à l'église. Les autres groupes. Je vous ai bien réfléchi, c'est pour ça.
À ne pas faire qui n'honore pas Dieu, à éviter, à proscrire,
se disputer devant tout le monde. Se disputer en privé, c'est bon, vous déchirez, vous vous défoncez, pas de soucis. C'est ça. Là. Bon, c'est sûr qu'on va mettre devant tout le monde en premier et en privé, faut maîtrise de soi, douceur, patience. Hein. Voilà. Quoi d'autre qu'il faut éviter? Ah ah! Le smartphone occulte. C'est ça. Non, je prends des notes. Oui, mais on prie là. Pourquoi tu prends des notes pendant qu'on prie? Allez, ouais. Ok, donc par respect pour les autres ou pour le Seigneur, attention à la Facebook, texto et autres, Facebook et tout pendant le culte, effectivement. Non, bon point. Twitter et tout. Ouais, très bien. Ah bah voilà. Vraiment David Chenu, il connaît des choses. Ok, merci. Allez, un texte, 1 Pierre 2. Non pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Romains 15. Romains 15. On va juste lire les deux premiers versets. Oui. Romains chapitre 15, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, ma version est dit, c'est version du second 21, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. Après, l'image qu'il donne, c'est Jésus-Christ qui lui-même n'a pas cherché son propre intérêt. Donc voilà, pour l'Église, on est là effectivement à aimer les frères et sœurs, ne pas chercher le propre intérêt. Et encore une fois, je reviens à mon image des deux recrutés. L'idée, c'est pas d'être parfois bon. L'idée, c'est pas d'être parfois patient, d'être parfois plein de bonté. L'idée, c'est que c'est un objectif. Mon objectif, c'est d'aimer les frères et sœurs de Saint-Maur. C'est un des appels premiers que le Seigneur m'a donné quand je vais à l'église de Saint-Maur. Donc j'ai été recruté, entre guillemets, racheté pour aimer. C'est pas quelque chose que je fais par option parfois. Entre deux activités, allez, je suis sympa. Non, c'est ma perspective de vie. Ma perspective de vie. Et donc faites-en votre appel. Et moi un jour, un pasteur m'avait aidé en disant, dès que tu franchis le seuil de cette porte, mets-toi vraiment en mode amour. Normalement, il faut que tu sois avant, mais ça m'a aidé de dire la porte. Tu arrives, qui est de la pie, mode amour. Comment on peut aimer son prochain et aimer son Dieu? Comment on peut glorifier Dieu dans la famille? Allez, Sam. Parce que certains ne sont pas enfants, mais ils sont nés doux. D'accord.
Considérer la vie des parents au lieu parfois de toujours avoir une décision personnelle, solo.
Donc, ce notion de prendre. D'accord. Elle a pas sa vie.
Donc considérer en sens leur avis, mais considérer aussi leurs besoins.
C'est ça? C'est ça l'idée?
On n'est pas allé au bon besoin, mais...
à un moment. D'accord. Très bien, très bien. Philippiens 2, super.
Ça en termes de leitmotiv.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Superbe.
Et donc, si on veut essayer de se mettre personnellement, par rapport à notre point de vue personnel, ce serait des fois de prendre plaisir à s'oublier en quelque sorte.
Prendre plaisir à s'oublier. Est-ce que vous pouvez un peu développer ? Parce que c'est très intéressant.
Prendre plaisir à s'oublier et.
Ça vient, c'est l'idée de qui ça ? C'est le terme de qui ? Prendre plaisir à s'oublier ? C'est un melting pot de. Il y en a un qui a dit prendre, l'autre a dit plaisir, l'autre a dit.
En fait, c'est la première réflexion, c'était. Tu penses à l'intérêt des autres. Okay.
Et en même temps,
superbe.
Et penser à l'intérêt des autres dans le sens négatif, c'est comme le verset qu'on a eu tout à l'heure, le mec qui dit ah, moi, j'y arrive pas. Ben, c'est. En fait, c'est pas ça, ça va au-delà. C'est prendre plaisir dans l'intérêt des autres, c'est vraiment penser aux autres et que ça te fasse super plaisir.
Waouh! En fait, waouh! Très beau, merci beaucoup. Cette notion où je ne fais pas juste les choses, je les fais avec joie, je les fais avec. Donc il y a non seulement l'action qui est belle, mais aussi le cœur qui le fait. Super, merci beaucoup. L'intention qui est. Ça, c'est génial, ça. Bravo.
Après, la deuxième, c'est vraiment en termes de. Comment on peut matérialiser ça, quoi. D'un point de vue très concret. Mm-hmm. Là, il reste comme très très général.
Hein. Ouais.
Par exemple, Clément, il a partagé cette idée-là, qui est la mise en place d'un culte de famille.
Ah oui, très bien.
Pourquoi ? Parce que c'est un moment consacré dans la semaine où on parle des choses spirituelles, on peut se centrer sur Christ, on peut lire la parole ensemble, on peut louer le Seigneur ensemble. Et donc, du coup, l'objectif est.
Très bien. Ou une famille tout entière se concentre en Dieu.
Dans le cas d'une famille chrétienne, c'est plus simple.
Super. C'est vrai qu'une famille musulmane aura du mal, mais.
Non, bah, sinon, si t'es tout seul, bah, c'est un peu personnel.
Oui. Oui. Et c'est vrai aussi, je pense, entre frères et sœurs. N'est-ce pas ? Parfois, on est frères et sœurs adultes, on ne vit plus avec nos parents. Mais comment est-ce qu'on met le Seigneur au centre, même si on n'est plus à la même maison ? Et ça peut être un encouragement de se dire, comment dans quelle mesure est-ce qu'avec mes frères et sœurs, on continue à mettre le Seigneur au centre de notre relation ? On avait ce culte à la maison quand on était tous ensemble, là, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, qu'on a de nos foyers différents, on prend quand même le temps de s'arrêter, prier ensemble, prier les uns pour les autres ? Très bien. Entité 2
Premier noyau, en fait.
Oui, oui, oui. Ça veut dire que tu... Non, j'essaie de réfléchir. J'essaie de réfléchir. Quelles en sont les implications ? Peut-être c'est plus ça qui est intéressant. Quelles en sont les implications ? Puisque c'est le premier foyer, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'Église ? Oui. Et de ce fait, est-ce que tu as une disposition différente vis-à-vis de la famille que vis-à-vis de l'Église ou pas ?
En fait, moi, c'était vraiment que tu commences par la famille.
Ouais. Voilà.
Il y a les relations que tu vis dans la famille, c'est les gens qui te voient tous les jours, etc. Et ce que tu vis à l'église, finalement, ça découle de ce que tu
voilà, ça c'est famille. Voilà, ça c'est effectivement une belle perspective.
Bah, c'est pour ça que critère d'ancien, c'est
exactement. La situation de l'avenir. C'est très vrai. Parfois, malheureusement, il y a une dichotomie entre ce que je vis dans mon foyer et ce que je vis à l'église. Et il ne faut pas, au contraire, il faudrait que ce que je vis dans mon foyer soit une première mini-église où j'essaye d'appliquer tous les critères de la foi chrétienne, mon amour pour l'autre, et ensuite je vis à l'église. Donc juste quelques versets, Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. » Ça, on n'a pas parlé du couple, mais... Ça fait partie clairement de la famille. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée, livrée et lavée par l'eau de la parole. Donc, messieurs, notre rôle, c'est d'amener notre femme à grandir dans sa foi spirituelle, avant tout. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait ? Il s'est donné lui-même pour elle. Afin de l'amener à la sainteté après l'avoir purifié et lavé. Voilà, donc ça, L'idée, c'est de pouvoir creuser encore derrière. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Voilà. Dans le travail.
Alors, ce qu'on a dit, il y a de respecter l'autorité hiérarchique, et on a un
peu ça, je crois. Oui. Super. Oh, si, c'est très bien, vas-y.
Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient les êtres désireux, bien aux uns, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme, libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura demandé. Quant à vous, maître, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de forme de vie.
Ah, super. Alors ça, les amis, c'est pour tous ceux et toutes celles qui travaillent.
Voir ses collègues comme les yeux de Christ, ne pas se prendre le jeu.
Regarder ses collègues avec le regard d'amour que Christ peut avoir pour nous.
Eh oui.
Malgré qu'il puisse avoir des opinions différentes,
des
religions parfois différentes,
tout à fait.
En réunion, on peut avoir des avis différents, et accepter. Que les autres ne pensent pas comme nous, forcément.
Exactement.
Vraiment avoir ce regard d'amour, pour nos collègues.
Donc pareil, quand je franchis le palier de ma porte ou des réunions, mode amour. Je suis là pour les aimer, pour témoigner de la gloire de Dieu. Merci. Vous en aviez d'autres, vous voulez vous présenter d'autres choses? Les encourager, encourager nos collègues, c'est super ça, hein. C'est vrai, être à leur écoute, les encourager.
Prier pour que Dieu dispose nos cœurs pour voir les besoins des
collègues. Oui, la prière. Merci beaucoup. Merci, c'était très riche, hein. Donc vous avez compris, là, on a eu 10 minutes, même pas, pour réfléchir à ce que ça veut dire concrètement aimer. Et vous avez trouvé plein de choses. Prenons le temps de faire le même travail chaque jour. Quand vous lisez la parole de Dieu, prenez la parole de Dieu, dites, Seigneur, concrètement, comment est-ce que je peux manifester cela aujourd'hui? Dans mon travail, dans ma famille, dans mon église. Et le Seigneur vous fera du bien. Comme cette personne qu'on a lue tout à l'heure, qui commence sa journée et qui dit, non, moi je veux pas faire. Après, il se repentit. Et il dit, si, je vais le faire. Donc, ça demande une direction, ça se décline très concrètement. La parole de Dieu est au centre, donc on est appelé à vivre pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est notre première priorité. Hier, on a vu que c'était la meilleure chose à faire, parce que même le monde le sait, quand on vit pour la gloire de Dieu, finalement, le monde est changé. Et notre vie aussi, et celui de nos autour. Par contre, il ne faut pas que ce soit une option, il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on fasse parfois, il faut que ce soit quelque chose qui est absolu dans notre cœur. Et maintenant, je vais vous donner juste quelques axes qui vont nous dire, mais comment le vivre? Donc on a vu tout à l'heure la parole de Dieu, ça fait partie clairement des axes importants. Prenez le temps de connaître la parole de Dieu. Un jour, quelqu'un, y a une équipe qui a écrit un bouquin, et ils ont dit, avant même de chercher la volonté spécifique de Dieu dans votre vie, typiquement, quel est mon conjoint, quel travail je dois faire, voilà, où est-ce que je dois aller, est-ce que je dois déménager à tel endroit, tel endroit. Faites déjà la volonté révélée de Dieu. Agissez déjà avec la volonté révélée que Dieu vous a. Donc tous les textes que vous connaissez déjà, essayez déjà de les mettre en pratique aujourd'hui. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Quelque chose de crucial dans notre marche avec Christ, c'est déjà de recevoir. Ça veut dire que vous êtes appelé là à aimer. Mais est-ce que vous savez aimer? Et ça, c'est quelque chose qui est important pour la marche chrétienne. Il y a beaucoup de textes qui vont en parler. Je vais juste vous rendre, puisqu'on était sur Éphésiens tout à l'heure, avant de donner tous ces conseils à votre mari, mais pas votre patron, servir votre patron, il commence au verset 5, au chapitre 5, verset 1, il dit « Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes les enfants bien-aimés. » Est-ce que vous savez bien aimer? Est-ce que vous savez aimer de Dieu? Dans quelle mesure est-ce que vous savez aimer de Dieu, accueillir de Dieu? Et avant d'envoyer les gens, Jésus les attirait à lui. Il commençait par dire « Venez à moi » et c'est après qu'il disait « Allez ». Est-ce que déjà tu es venu à Christ? Ça c'est la première question. Est-ce que tu es venu recevoir ce que Christ veut te donner pour ensuite pouvoir mieux aller? Tu veux partir au travail en disant « Je vais aimer tous mes collègues » et t'es vide à l'intérieur, n'est-ce pas? Tu as besoin d'être rempli de la grâce de Dieu. Et tu as besoin de recevoir. Tu ne peux pas être patient avec les autres et être plein de bonté si toi-même tu n'as pas reçu la bonté et la patience de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime ce temps de louange qu'on fait avant le culte, avant le message, parce qu'on reçoit et on proclame ce qu'on a reçu de Dieu. Et une fois qu'on a ça, alors là, on peut écouter et partir. Cette notion de « Merci Seigneur de ce que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ce pardon. » Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le texte en anglais, là où il disait « La justice de Dieu devait venir, mais l'ami des pécheurs est arrivé. » C'est un peu ça, hein, l'idée. Ou tu as fait des choses qui ne vont pas, mais Jésus t'a protégé. Et c'est parce que tu as reçu ça que tu vas pouvoir aider les autres. Et je crois que je lis absolument votre capacité à aimer à votre compréhension de l'amour de Dieu. Je me permets de faire ce lien immédiat. Je crois que je peux me permettre de lier votre capacité à pardonner quelqu'un, et je la lis à votre compréhension de l'amour, du pardon que vous avez reçu de Jésus. Un texte qui dit « Pardonnez comme vous avez été pardonné ». Si vous n'arrivez pas à pardonner, peut-être que c'est que vous n'avez pas absolument reçu ce pardon. Donc c'est un peu cette notion, c'est « Est-ce que vous avez reçu ce que Dieu veut vous donner ?» Déjà en commençant par le pardon, la réconciliation, et aussi la communion. Donc ça c'est la première chose, donc il y a la parole de Dieu, et il y a cette notion de « Venez à Jésus et recevez de lui tout ce que vous avez besoin ». J'aurais beaucoup de textes à vous donner, mais le temps est limité. Mais béni soit Dieu le Père de toutes les bénédictions, qui vous a donné toute bénédiction spirituelle en Christ. Et ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 3. 2 Pierre
1, nous avons reçu
tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, tout ce que vous avez besoin pour aimer, Dieu, en Jésus, vous l'avez. Donc ça c'est la deuxième chose. Lié à cela, une fois que vous venez à Christ, vous recevez le Saint-Esprit. Et ce qu'on va poursuivre, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. On l'a vu tout à l'heure, Galates chapitre 5, les fruits de l'Esprit, on l'a vu hier, on a vu tout cela. Il est marqué « Marchez par l'Esprit ». Laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc ça, comment être conduit par l'Esprit? C'est en acceptant de se soumettre à Dieu, en priant pour la plénitude, et en laissant la parole de Dieu nous influer en disant « Oui, maintenant, Seigneur, je veux obéir. » Donc ça, c'est le troisième, la conduite par l'Esprit. Donc la parole de Dieu, donc ils sont tous liés, évidemment. Hein. Parole de Dieu, la grâce que vous allez recevoir, donc tous les dons de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, tout ce que vous recevez en Jésus, la conduite par l'Esprit. Ça, c'est le troisième que je donne. On avait parlé aussi du motivateur qui est Jésus-Christ. Regardez à Jésus. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous aider. Donc quatrième point, regardez à Jésus. Laissez-le inspirer vos actions, comment lui s'est comporté avec les pharisiens, comment il s'est comporté avec les pécheurs, comment il s'est comporté avec ses disciples. Donc ce soit lui qui vous inspire, c'était Samuel là, qui disait que waouh, si on regarde Jésus, ça t'inspire, quoi, ça te motive à fond. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment bon. Donc la motivation que Jésus nous donne. Lié à ces choses-là aussi, le renoncement total à soi. Vous avez vu, hein, parfois l'amour coûte. Mais si vous n'avez pas renoncé à vous-même, vous n'aimerez pas jusqu'au bout. Parfois, l'amour, c'est mettre votre intérêt après celui de l'autre. Et si vous n'êtes pas prêt à dire mon confort après celui des autres, alors vous n'arriverez pas parfois à aimer jusqu'au bout.
Parfois, l'amour a un prix, il faut le payer. Donc ça, c'est un des axes. Encore une fois, tout est lié, mais je vous donne juste quelques axes qui vont permettre de vous aider là-dedans. Soyons comme ce fils
qui peut-être a mal commencé en disant non, moi ça ne m'intéresse pas d'aimer les autres, ça ne m'intéresse pas de faire cela, ce n'est pas ce que je veux vivre. Mais revenons à nous-mêmes en se disant non, en fait, Seigneur, c'est la direction que tu me demandes. Et Jésus vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le vivre. Tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être des modèles pour les autres. Non pas qu'on soit des super chrétiens, mais on se laisse habiter de l'esprit et il nous donne la puissance pour le vivre. Donc, allez dans votre travail avec cette perspective, allez dans votre église avec cette perspective, allez dans votre famille avec cette perspective, et nous sommes en mission permanente. L'appel de l'amour. Et l'évangélisation en est une conclusion, une conséquence, n'est-ce pas ? En fait, l'évangélisation, c'est pas juste aller évangéliser pour évangéliser, mais c'est quelle est la plus belle marque d'amour, quel est le plus beau don que vous puissiez donner à quelqu'un ? Est-ce que c'est votre voiture ? Alors là, quelqu'un qui donne sa voiture et tout, waouh ! C'est votre maison ? Ah, quelqu'un qui donne sa maison, mais c'est génial ! C'est Dieu, n'est-ce pas ? C'est Dieu, et je me donne tout entier, corps, âme et esprit, ma voiture, ma maison, ma vie, tout ce que je suis, pour que cette personne reçoive Dieu. C'est la plus belle chose que je puisse donner à quelqu'un, c'est Dieu. Et d'où la beauté de l'évangélisation. Parce que si cette personne reçoit Dieu, mais ça change sa vie totalement. Si elle reçoit ma voiture, ouais, ça change sa vie pendant 3 ans, même pas 2 ans, peut-être si elle tombe en panne après-demain, c'est fini. D'ailleurs, David, faut qu'on parle. Je rigole, c'est pas vrai. Non, mais par contre, si vous amenez cette personne à Jésus, ou en tout cas si vous lui confiez Jésus, mais ça change sa vie. Elle a une autre direction. Donc voilà, c'est pour ça. Tout ce qu'on fait doit être la réponse à de l'amour que vous avez reçu et que vous voulez donner. D'où l'importance de ce chapitre. Et notre travail, c'est pas juste de nous rappeler de ce verset. On le connaît toutes et tous. Nous, quand on était petits, on l'apprenait. Notre travail, c'est de le décliner concrètement au quotidien. Et dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui d'aimer Dieu, de recevoir son amour. Je vous invite à prendre un temps de silence tous de votre côté et de prendre votre temps avec Dieu et de répondre à son appel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement, là maintenant, recevoir l'amour de Dieu et le donner ? Essayez de trouver chacun une action dans chacun des domaines. Seigneur, recevoir ton amour pour moi, c'est ça. Je réponds. Et le donner peut-être cette semaine, très concrètement, cette semaine, à qui vous pourriez donner l'amour de Christ ? Peut-être quelques minutes de silence et on va terminer comme ça. Je vous invite chacun dans votre cœur à avoir ce temps avec lui, à le remercier du pardon qu'il vous a donné et de l'amour qu'il vous a exprimé à travers Jésus et toujours. Et ensuite, demandez-lui de vous montrer quelqu'un, cette semaine, ou peut-être un groupe de personnes à qui vous pourriez manifester concrètement de l'amour, que ce soit dans l'église, dans votre famille, dans votre travail. Déjà, commencez par le remercier et ensuite demandez-lui qu'il vous éclaire sur une personne. Merci vraiment pour le sacrifice que tu nous as accordé. Et nous voulons encore prendre ce temps dans le silence pour continuer à te remercier. Seigneur, on décide aussi maintenant d'être des hommes et des femmes qui marchons pour ta gloire, que ce soit la perspective première de chacun d'entre nous, notre Dieu. Et je te prie que ce soit vrai dans notre travail, dans notre église, dans notre famille, et en tant qu'église de Saint-Maur, que le premier objectif de l'église de Saint-Maur soit de te glorifier, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et je te prie maintenant d'éclairer mes frères, mes sœurs, sur une personne en particulier, qu'il puisse aimer concrètement cette personne, se donner à elle de façon très concrète. Éclaire-les, notre Dieu. Seigneur, merci encore pour l'occasion qu'on a eue d'écouter ta parole, d'entendre encore cet appel de dire « Mais consacrez votre vie à l'amour, consacrez votre vie à Christ, consacrez votre vie à la plus belle des causes qui change le monde. » Éternel notre Dieu, fais de nous des hommes et des femmes qui nous mettons en avant pour servir ton nom et pour aimer nos prochains. Aide-nous à être prêts à payer le prix s'il le faut. Aide-nous en tant qu'Église, aide l'Église de Saint-Maur à s'encourager mutuellement dans cette direction principale qui est de glorifier notre Dieu et de nous aimer les uns les autres. Ne nous permets pas de lâcher cette direction, mais que tout ce que nous faisions soit insufflé, soit inspiré par cet appel. Et que chaque personne ici présente, notre Dieu, non seulement reçoive cet amour particulier que tu veux lui donner, mais aussi se donne à fond pour ta gloire, où qu'il soit. Dans ses études, dans son travail, dans sa famille, dans son temps libre, dans son église, dans son rapport avec le sexe opposé aussi. Que soit toi notre Dieu qui inspire nos vies dans tous les domaines de notre vie. Que jamais on ne laisse autre chose que ton inspiration nous conduire. Selon Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.